Toulouse Lautrec est un des plus grands dessinateurs qui ait jamais été. Sa ligne est véritablement créatrice. Elle crée l'espace et elle crée la figure. Sa ligne est expressive et l'on peut considérer Toulouse Lautrec, me semble-t-il, comme un des grands précurseurs de l'expressionnisme, de ce grand mouvement qui a aspiré à exprimer soit un mouvement intérieur de l'âme, soit le spectacle extérieur dans son mouvement, dans son dynamisme, dans son énergie et dans son caractère. En ce sens-là, Toulouse-Lautrec me paraît absolument unique. Sa ligne est d'une puissance extraordinaire. Ses affiches sont tout à fait étonnantes à ce point de vue-là. Quand il campe une grande vedette du Kafkons, il est prodigieux et on ne peut s'empêcher de penser à cet art extraordinaire qui a été porté à l'extrême du chef-d'œuvre par les chansons de Bruant et par l'élocution d'Yvette Guilbert. Il s'agit là justement de moyens extrêmement réduits, de moyens extrêmement simples et essentiellement populaires, d'expression directe, d'expression orale, et qui sont poussés jusqu'au chef-d'œuvre.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Fondateur du musée d'art moderne de Paris, Jean Cassou, qui avait 4 ans à la mort d'Henri de Toulouse-Lautrec en 1901, relève, comme tant de critiques d'art avant et après lui, l'originalité et l'incroyable modernité des dessins et affiches d'un artiste qui dénote formidablement parmi les pompes de l'art officiel de la Troisième République. C'est d'ailleurs ainsi que Lautrec est encore connu du grand public, ses affiches pour les spectacles du Moulin Rouge, d'Aristide Bruant, de Jeanne Avril ou d'Yvette Guilbert étant toujours reproduites pour illustrer le Paris des touristes. Mais la formidable exposition que nous propose le Grand Palais à Paris jusqu'au 27 janvier rend justice à un peintre bien plus complexe et important que ce qu'un certain folklore de Montmartre et du Gai Paris a laissé croire trop longtemps. Toulouse-Lautrec, résolument moderne, selon les co-commissaires Danielle Devinck, directrice du musée d'Albi, et Stéphane Guégan, conseiller scientifique des musées d'Orsay et de l'Orangerie, c'est en effet ce que nous démontre ce parcours passionnant parmi les 228 œuvres qu'ils ont rassemblées ici. Portraits vibrants, scènes de genre saturées de couleurs, estampes japonisantes et esquisses satiriques qui ont profondément impressionné les peintres du XXe siècle, au premier rang desquels Picasso. Bonsoir Stéphane Guégan.
Bonsoir.
Alors on se souvient peut-être pour certains auditeurs de la rétrospective de 1992 consacrée à Toulouse-Lautrec, d'ailleurs il y avait très longtemps, mais j'ai l'impression que cette exposition du Grand Palais que vous avez coproduite avec Danielle Devinck, que c'est une réhabilitation, que pour une fois Toulouse-Lautrec est montré comme un peintre et plus seulement comme un décorateur, un affichiste, même si son génie d'affichiste était reconnu.
Vous avez raison, c'était notre intention de l'arracher à l'image d'un simple chroniqueur de la Belle Époque, un homme qui se serait contenté de tirer profit des plaisirs de Montmartre, des prostituées, pour tout simplement diffuser une imagerie banale, complaisante. Ce qui nous a importé, Danielle Devinck et moi, c'est d'ouvrir le compas, vous l'avez dit, une œuvre plus diverse, une ambition de peintre qui se réalise aussi à travers l'affiche, qui se réalise aussi à travers l'estampe où il excelle. Et puis, rappeler qu'il y a un destin, des sources, des racines, des maîtres, des conflits, des compétitions également, que Lautrec ne s'est pas contenté d'utiliser les vedettes de la scène, qu'il a travaillé pour elles, que nous entrons dans le monde de la célébrité, de la publicité, qu'il est conscient de tout cela, qu'il n'a rien d'un dilettante aristocrate qui vient au fond faire la vie, une vie de débauche en partie, mais une vie de travail. C'est d'ailleurs un homme qui fait notre admiration en ce qu'il a vécu et laisser une œuvre de 700 tableaux, presque autant de dessins, 30 affiches, 300 estampes.
Alors qu'il est mort à 35 ans.
Alors qu'il est mort voilà, c'est à fou. Moins de 40 ans.
Donc il travaillait énormément tout en voilà. menant cette vie que tout le monde connaît.
J'ai failli dire nuit et jour, mais on sait que les nuits sont occupées par autre chose, encore que cet homme est doté d'une énergie, on le sait, virile, puisque c'est entré dans la légende, hein, la cafetière, c'est entré dans la légende que cet homme était doté d'une virilité exceptionnelle et qu'il l'a utilisé, qu'il a beaucoup aimé les femmes. Mais il a également chez lui un fils de famille, un aristocrate, qui a reçu finalement très tôt l'autorisation de devenir un peintre professionnel et qui va véritablement accomplir une œuvre.
Mais Stéphane Guégan, est-ce que, au fond, Toulouse-Lautrec était un bon propagandiste de ses propres œuvres ? Est-ce qu'il était persuadé de son talent ? Parce que on lui connaît des maîtres, des amis, Van Gogh, Degas, c'était apprécié son travail. Mais au fond, comment ça se fait que ses contemporains, à part Thaddée Natanson ou quelques critiques d'art plus clairvoyants que les autres, ont reconnu cette modernité du regard dont on parlera tout à l'heure, ce regard un peu photographique décalé sur les scènes qu'il nous peint. Mais est-ce que lui-même, j'ai lu quelque part qu'il parlait de ses toiles en disant « mes navets ».
Alors, là, il faut faire le partage entre la légende et la réalité d'une carrière. Je crois qu'il prend en main sa carrière. J'aime à parler d'habitus aristocratique. Le père, très libre de mœurs, c'est aussi, et qui vit sur cette terre, qui n'a jamais vraiment travaillé, est un homme assez volontaire dans ses plaisirs. La chasse et le reste. Et son fils a hérité de cela. Il a un certain don, d'abord, pour avaler toute la modernité du 19e siècle. Avant d'être l'ami de Degas, il l'a regardé, il parle de Manet dans sa correspondance. Au moment même où il se forme auprès d'artistes qui nous semblent assez étrangers à la modernité, Bonnat, Cormon, il est déjà très au fait. Il sait aussi que depuis les années de l'impressionnisme, c'est-à-dire depuis les années 70, un marché de l'art s'est constitué pour l'art moderne. Il appartient à la deuxième génération. Comme les frères Van Gogh, il est persuadé que le temps va travailler pour eux. Il va plus vite que Van Gogh et surtout, très tôt, au fond, il organise la promotion de son œuvre, pour reprendre votre terme. Il écrit aux journalistes. D'ailleurs, sa correspondance, si l'on écarte les lettres de jeunesse où il écrit à ses grands-mères, à sa mère, sa correspondance est essentiellement faite de petits mots envoyés à Arsène Alexandre, à Félix Fénéon, donc à tous ceux qui, dès la fin des années 80, il n'a pas encore 30 ans, ont perçu en lui l'artiste qui va venir après Manet, après Degas.
Alors, on parle beaucoup, évidemment, de Toulouse-Lautrec, de son regard, de son coup de crayon. On va écouter tout de suite votre co-commissaire, Danielle Devinck, directrice du musée d'Albi, où se trouve l'essentiel des toiles léguées par Henri Toulouse-Lautrec. Elle nous parle très bien d'une esquisse, d'une toute petite œuvre qui s'appelle « Jeune femme tirant son bas ».
On voit très bien cette jeune femme, qui est une prostituée elle aussi, bien évidemment, qui est nue, qui a juste un vêtement autour du cou, un petit peu comme un châle, et puis qui est en train de rajuster ses bas. C'est une œuvre sur carton, donc le fond n'est pas travaillé. L'intérêt pour Lautrec, c'est que le carton lui donne déjà une couleur de fond. Donc il n'a effectivement plus du tout à se préoccuper du travail, comme on l'a dit tout à l'heure, le fond ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est véritablement cette silhouette. Et cette silhouette, elle est très équilibrée, pourtant on ne voit pas les pieds, il ne les a pas peints. On comprend très clairement le geste de la femme et pourtant on ne voit pas ses mains. Donc il y a ce non finito qui est très caractéristique de l'œuvre de Lautrec, qui fait que vous, spectateurs, êtes appelés à compléter mentalement l'œuvre de l'artiste. Il y a un dialogue qui s'instaure entre ce qu'il vous donne à voir, ce que vous-même allez compléter, et donc c'est probablement à mes yeux l'un des aspects de la modernité qui a à la fois le plus déconcerté ses contemporains, mais qui fait aussi aujourd'hui que Lautrec reste un artiste très important, parce que c'est toute l'importance du vide. Et tout l'art du XXe siècle jouera autour de cette notion de vide d'une façon ou d'une autre.
Effectivement, Stéphane Guégan, on comprend bien en écoutant Daniel Devinck, ce qui pour nous est immédiat dans notre appréciation du coup de crayon, du trait de gouache de Toulouse-Lautrec, mais ça devait être très déconcertant à l'époque, parce que ce n'est pas fini, c'est sur des fonds qui ne sont pas travaillés, alors qu'à l'époque on aimait quand même bien que toute la toile soit remplie d'une belle matière. Lui, il a presque, parfois, il fait des profils presque japonisants de femmes sur du carton qui est au fond une petite matière pas très noble.
Oui, mais il faut se souvenir que dès 74-76, un Degas expose, en les intitulant esquisses, études, des choses qui jouent sur le non-fini, le non-finito, comme dit Daniel. Il y a déjà, si j'ose dire, un contexte qui permet à Lautrec, d'ailleurs, de jouer sur les deux tableaux. Pour faire un mauvais jeu de mots, c'est-à-dire il y a des œuvres à peine ébauchées qui appellent effectivement du spectateur un complément, et puis il y a des œuvres plus élaborées, c'est celles qu'il montre très tôt à Paris comme à Bruxelles, 1889, et par ailleurs il y a également très tôt les dessins de presse. Là encore, qui appelle un autre langage, beaucoup plus synthétique. Et d'ailleurs, toute l'époque aspire au synthétisme. D'une certaine manière, Lautrec, Anquetin, Van Gogh, c'est-à-dire tous ces jeunes gens qui se croisent chez Cormon, eh bien, ils vont tirer le naturalisme, le réalisme de la génération précédente vers quelque chose de plus japonais. Ils sont des collectionneurs d'estampes, de quelque chose de plus synthétique, car toute l'époque semble aspirer à une sorte de langage plus direct, plus abrégé.
En fait, est-ce qu'on peut dire, Stéphane Guégan, que Lautrec et ses jeunes amis, et ils sont vraiment à la charnière entre deux temps. Alors, on entendait Cassou tout à l'heure qui parlait d'expressionnisme. À l'époque, c'était le naturalisme. Mais au fond, il n'appartient à aucun des deux courants.
À vrai dire, il s'est formé auprès de maîtres qu'on qualifiait de naturalistes, Bonnat, qui d'ailleurs encore un artiste qui n'est pas professeur à l'école des Beaux-Arts, qui est d'ailleurs pour Lautrec celui qui a fréquenté Degas dans sa jeunesse. Cormon, c'est un jeune peintre qui est d'une rare puissance plastique, même si il la concilie avec les aspirations, si je veux dire, du salon et de l'administration républicaine. Effectivement, Lautrec se rédit sans doute réaliste plus que naturaliste, mais c'est une étiquette assez vague pour qu'il la fasse évoluer. Et on peut imaginer ces jeunes gens qui n'ont pas 30 ans, Van Gogh, un tempérament, Anquetin, un autre volcanique, et qui s'intitule eux-mêmes les impressionnistes du petit boulevard, hein, pour simplement désigner le fait que eux vont peindre autre chose que l'Eldorado des banlieues vertes. Ils vont peindre justement les mœurs interlopes, la Paris la nuit, les bordels, les cafés, d'une manière beaucoup plus dure, d'une manière beaucoup plus agressive du point de vue rétinien, et d'une façon plus provocante. C'est vrai que dans cette économie de moyens, Jean Cassou, qui a été directeur du musée d'art moderne si longtemps, grand témoin du XXe siècle, pouvait très bien voir l'amorce de ce qui va se réaliser en Allemagne, par exemple, dès les années 1910, voire même à Berlin dans l'entre-deux-guerres, parce que, d'abord, ces artistes-là ont regardé Lautrec, et parce que, effectivement, on voit là l'amorce de quelque chose qui évolue vers une forme d'économie qui sera celle du XXe siècle.
Alors, Stéphane Guégan, c'est vrai que pour le grand public, Lautrec, c'est le peintre des bordels. Mais contrairement à Degas, qui, lorsqu'il peint les danseuses à l'opéra, nous montre une sorte quand même de saleté de ces gros bourgeois bedonnants qui viennent acheter de la chair fraîche, il y a, quand on regarde ces magnifiques tableaux qui viennent de l'étranger souvent, qui représentent ces intérieurs de maisons closes, il n'y a pas du tout d'érotisme, il y a une tendresse incroyable et une attention portée à des gestes qui ne sont pas des gestes de professionnels de l'amour, qui sont des gestes de femmes dans leur intérieur. Ce sont des tableaux qui éclatent de couleurs et qui sont de la main de quelqu'un qui vivait là.
C'est la grande énigme. Sexualité débridée, peinture pudique, tendre, sensuelle, baudelairienne, On voit des zones de chair entre les jupons et les bas, mais rien de plus, jamais de client, jamais de scène, jamais l'acte, l'attente ou l'après-acte, les filles entre elles. Qui déjeunent, qui parlent, qui attendent.
Qui dorment,
qui rêvent. Donc un monde qui n'a rien à voir avec le scabreux, qui n'a rien à voir avec la complaisance du scabreux. La peinture de salon, la peinture qu'on appelle officielle, est beaucoup plus scabreuse, beaucoup plus paillarde, mais sous bien sûr des apprêts corrects. Non, Lautrec, qui nous dit « Tadène Attençon, aimer l'amour jusqu'au métier de l'amour », grand consommateur des maisons à numéros, grand ami des filles, on le sait, eh bien, préfère les approcher de façon tendre, pudique, avec cette distance admirable, qu'on perçoit d'ailleurs très tôt. Dans une des premières salles de l'exposition, j'ai rassemblé des rousses, parce qu'il avait un amour pour les rousses. Il n'y a rien qui relève de l'impudeur, rien qui relève de l'intrusion. Et pourtant, on le sait, si Degas est un frôleur, lui, c'est un viveur. Mais il y a simplement du respect.
Ce n'était plus un client, il était de la maison. Lorsqu'on parle de Lautrec au bordel, il ne faut jamais omettre le ton moins de politesse que d'amitié dont il usait avec les pauvres filles, que peut-être il aimait moins pour leur chair nue que pour leur tendresse, qu'il s'ingénia à atteindre, voire leur métier de tendresse. Ce qui, dans les maisons closes, l'attendrissait, c'était petit ménage, jalousie, brouille et raccommodement. Ce qu'il y trouvait de vie de famille, plus que tout, les repas en commun. Tadène Attençon, un Henri de Toulouse-Lautrec, 1951.
C'est devant le Moulin Rouge, ça devait être en 1901 à peu près, parce que j'étais à ce moment-là, je faisais une décoration dans l'exposition universelle de 1900, et j'étais avec un camarade de passion devant le Moulin Rouge, où j'ai jamais mis les pieds, j'ai jamais eu assez de fric pour rentrer dans le Moulin Rouge. Alors, on voit un groupe de types, des gentlemen, alors il me dit, tiens, tu vois le petit bonhomme là, c'est le peintre Henri de Toulouse-Lautrec. Oh, je le connaissais, évidemment. C'est un homme qui m'a tourmenté beaucoup. Et je l'ai reconstitué pour mon usage personnel. Je connais la palette de Lautrec, comme peintre. Il a peint sa mère. Et quand il peignait sa mère, il changeait ses couleurs. Il changeait sa palette, comme un type qui met une chemise propre pour aller à un rendez-vous.
Je vois parmi les souvenirs souvent recomposés de Pierre Macorlan, Stéphane Guégan, une remarque vraiment, hein, il avait l'œil, parce que c'est vrai qu'on parle toujours de la palette de Toulouse-Lautrec lorsqu'il peint les scènes de cirque, les scènes de cabaret, les scènes de bordel avec des couleurs très franches qui s'opposent, qui devraient se heurter et qui se combinent d'une façon formidable avec parfois des zones d'éclairage très crues et des zones d'ombre. Et quand il peint certaines femmes, dont sa mère, la comtesse Adèle, mais aussi Carmen Gudin, cette rousse magnifique, là, on a l'impression d'un autre peintre, d'une autre palette, d'une autre manière d'approcher la peinture.
Je dirais ce que Mallarmé disait de Manet, c'est le sujet qui conditionne la facture. On sent un grand respect de la part d'Henri à l'égard de la comtesse Adèle. Il est mort dans ses bras. Il est revenu mourir dans les bras de sa mère. en 1901, peu de temps avant que Macorlan le croise sur les boulevards, près du Moulin Rouge. Les portraits de la comtesse Adèle sont remarquables de simplicité, de clarté. Je pense notamment à celui où on la voit seule dans sa rêverie. Je pense aussi à celui où il la montre lisant et qu'il expose à Bruxelles lors de sa première exposition majeure en février 1888. Il peint à la fois la solitude d'une femme, le comte Alphonse est souvent très loin, et également son goût pour la lecture. C'est elle aussi qui, après la mort de son fils, va venir secouer les institutions et convaincre notamment la Bibliothèque nationale d'accepter le grand don des estampes et des affiches, qui n'aura pas d'équivalent pour la peinture, puisque le musée d'art moderne de l'époque ne plie pas. Et Léonce Bénédite n'accepte que la femme au boa qui est dans l'exposition et qui est aujourd'hui au musée d'Orsay. Et tout le reste va en partie rejoindre 20 ans plus tard le musée d'Albi et puis où se disperser. C'est donc une femme formidable au vrai sens du terme. Et l'attachement que le fils lui porte est très clair dans les tableaux.
Alors, c'était un aristocrate, ô combien, descendant des comtes de Toulouse. Mais c'est un peintre qui a peint essentiellement le peuple, les femmes du peuple, les femmes de la butte Montmartre, les femmes des cabarets. Et c'est quand même assez rare dans l'époque. C'était pas du tout un peintre maudit, il avait de l'argent, il pouvait vivre bien. Mais c'était ces visages-là qui, pour lui, motivaient le geste artistique.
Oui, il y a Daniel Devin que vous aurez dit que ce qui importe, c'est la vérité humaine et qu'il semblait la trouver plus intacte chez les gens du peuple. Il y a aussi un goût d'époque. Le naturalisme se tourne vers ce monde qui est presque exotique par sa brutalité, par également sa vitalité, ses mœurs. Il y a des sujets qui passent de la littérature à la peinture. Et d'ailleurs, au milieu des années 1890, après avoir illustré la curée de Zola, il se tourne vers la fille Elisa d'Edmond Goncourt. Il y a donc une véritable chambre d'écho entre sa peinture et la littérature. Par ailleurs, et l'exposition les montre, Toulouse-Lautrec a également peint son monde. Ses hommes en frac, ses cousins, ces docteurs, ces médecins, notamment Bourges, qui a manifestement soigné sa syphilis. Quand on ouvre le compas, comme le Grand Palais tente de le faire, on s'aperçoit que il y a d'autres figures dans le petit théâtre de Lautrec. Et par ailleurs, c'est l'autre paradoxe, les vedettes de la scène, Bruant, et tant d'autres danseuses, je ne parle pas de la Goulue qui, elle, était issue d'un milieu populaire, ne sont pas issus du peuple. Ils incarnent une certaine poésie du peuple. Yvette Guilbert va porter très loin dans le siècle ce goût pour les amours plébéiennes et les figures qu'on trouvait sur le petit boulevard ou en banlieue. Mais au fond, ils ne sont pas issus de ce monde qu'ils font entrer dans leur univers. Donc il y a là un paradoxe qui, à la faveur duquel... Au fond, ce sont ces aristocrates, ces bourgeois qui ont éternisé des figures du peuple.
Alors, il y a une partie de l'exposition qui est justement consacrée à Yvette Guilbert, dont vous venez de parler, Stéphane Guégan. On va redonner la parole à Daniel Devinck, qui nous raconte et qui nous décrit l'une des caricatures, des portraits les plus emblématiques de cette chanteuse de Kafkonce.
De la même façon que Lautrec a identifié quelques signes symboliques pour le personnage de Bruant, eh bien, il retient dans l'image que Yvette Guilbert s'est fabriquée, puisqu'elle a vraiment créé son personnage. C'est une femme, elle aussi, extrêmement intelligente, très en avance sur son temps. Hein, elle se crée une image, comme savent le faire quelques vedettes actuelles. Et Yvette Guilbert, elle avait choisi de s'habiller de façon à la fois très sobre, très élégante, avec ses longues en noir, tout simplement parce qu'elle avait un répertoire grivois et qu'il y avait justement un contraste assez fort entre ce personnage un petit peu compassé. Cela donc contrastait fortement avec ses chansons qui étaient effectivement assez enlevées. Et ce personnage fascine Lautrec parce que il retient les mimiques d'Yvette Guilbert. C'était plus une diseuse qu'une chanteuse. Elle n'avait peut-être pas une très grande voix, mais elle avait une articulation très particulière. Donc elle disait ses textes. Et en même temps qu'elle les disait, probablement elle les mimait. Donc elle avait sûrement un visage très expressif. Et ça, Lautrec le capte, un petit peu comme un arrêt sur image d'un photographe. C'est évidemment au plan artistique très fort. Par contre, Yvette Guilbert n'apprécie pas du tout, parce qu'elle n'est pas toujours très jolie lorsqu'elle est en train de chanter La Soularde ou je ne sais quelle autre chanson, et qu'elle a un petit peu la bouche en cul de poule et qu'elle fait un petit peu une grimace expressive. Et donc elle lui dit « Oh, mais vous, petit monstre, vous avez fait une horreur
!» Une chanson de Bruant. Je suis dans le bottin. De quoi ? Ben vrai, t'as pas la trouille. J'allais à l'école avec toi. Et c'est pour ça, dit sale fripouille.
Stéphane Guégan, pour Yvette Guilbert, comme pour Jeanne Avril, comme pour Bruant, comme pour Lagoulu, ce qui est frappant dans l'art de Toulouse-Lautrec, c'est il capte les mouvements, les torsions, des mouvements compliqués. On a l'impression qu'il les dessine très très rapidement et surtout, on a l'impression qu'il invente la pub moderne. Enfin, les gants noirs d'Yvette Guilbert, l'écharpe rouge de Bruant, le mouvement de Jeanne Avril. Il crée un regard différent sur ce qui fait l'événement à Paris.
Il sert la carrière de ces hommes et de ces femmes. Dans un registre d'ailleurs, ou plutôt dans un cadre qui est très clair, qui est celui de la publicité. Premier concours à l'ouverture du Moulin Rouge, qu'il gagne, et c'est la fameuse affiche Moulin Rouge, Moulin Rouge, Moulin Rouge, où on voit la Goulue et le désossé, et dans une efficacité qui est celle que le milieu du cinéma, le milieu du spectacle, pardonnez-moi, attend de lui. Raison pour laquelle, en ces années qui sont les années charnières, c'est-à-dire les années où vraiment il s'impose 91-94, où il est une des figures également de Montmartre, le monde du spectacle, qui est véritablement une industrie déjà, l'adore. En 95, c'est le couronnement de tout ça, le couronnement à la fois d'une esthétique et d'une stratégie, c'est les panneaux de la Goulue. La Goulue lui écrit, elle le tutoie, on le sait, par d'autres documents, ce qu'elle apprécie chez Lautrec, c'est qu'il fait voir. Il y a chez lui une puissance du visuel qui entraîne le regard, et c'est précisément ce qu'on attend d'un affichiste ou d'un décorateur de baraque de fête foraine.
Mais ce regard particulier, il était déjà présent dans une de ses premières toiles exposées à Bruxelles en 1888, le Cirque Fernando, qui est un chef-d'œuvre absolu qui nous vient de Chicago. Il faut aller le voir parce que on en voit des reproductions, mais rien ne vaut le face-à-face avec ce tableau. Et là, on voit bien dans ce cheval, les fesses du cheval représentées.
Plus que les fesses,
début. Oui, plus que les fesses. Tous les attributs sexuels, c'est un mâle, on le voit. Et ces personnages étranges, il a un regard très particulier sur les événements.
Oui, il peint au Cirque Fernando, d'abord parce qu'il adore le cirque. Ses parents l'y ont emmené, son oncle, Prince Tau, il connaît toutes les scènes parisiennes. Le cirque est énorme aussi à Paris à cette époque-là. Le Cirque Fernando, donc à la lisière de Montmartre, c'est une des salles les plus importantes. C'est d'ailleurs là où plus tard, 10 ans plus tard, Picasso viendra sentir un peu la poussière que lui a réussi à mettre dans sa peinture. Et oui, on est frappé par l'économie de moyens. Le japonisme, vous parliez du japonisme, c'est frappant. C'est un tableau qui est tout en mouvement, en ellipse, en courbe et contre-courbe, avec ce cheval au séant proéminent qui soutient une jeune fille, une jeune femme, qui va se dresser sur le dos du cheval pour mieux se jeter dans l'écran de papier que lui tend un clown. Et puis il y a ce monsieur loyal, érectile, comme le dirait Daniel Devinck, et toute l'œuvre appelle le regard. C'est véritablement un piège visuel, tout s'engouffre, et on peut dire qu'il met véritablement, non seulement en mouvement la scène, mais en mouvement le regard. Vous avez raison, tous les ingrédients de l'affichiste sont là.
Alors, il y a une surprise quand même dans la carrière de Toulouse-Lautrec, c'est qu'il vit à une époque où les événements politiques sont importants. Il est très ami avec Félix Fénéon et Georges Darrien, deux anarchistes qui auront maille à partir avec la police. Et alors lui, il s'en fiche totalement. Il est quand même en plein Il a 30 ans au moment de l'affaire Dreyfus. Ouais. Et il ne se passe rien, ça ne l'intéresse pas.
Alors, c'est peut-être plus compliqué que cela. D'abord, il y a le premier moment, qui est le moment anarchiste, c'est-à-dire le début des années 90 jusqu'à l'assassinat de Sadi Carnot, où il fréquente des anarchistes de la pire espèce, dirait la police de l'époque, Fénéon, Darien, Charles Morin, ce graveur qui a fait le portrait de Ravachol. Je crois qu'il aime en eux la liberté de mœurs. Il ne se reconnaît pas dans leur programme politique. Sa correspondance montre qu'il est capable d'ironie à l'égard de la République. Mais il est moins conservateur, moins légitimiste que le père. Et là, on a une source qui est la meilleure. C'est Adéna Tanson, c'est-à-dire l'un des hommes de l'affaire Dreyfus, le grand homme de la Revue Blanche, qui dit bien que si le père est légitimiste et anti-Dreyfusard, la position du fils est plus floue. Et c'est ça l'important, c'est qu'au moment de l'affaire, c'est-à-dire 97-98, alors que Lautrec fréquente Léna Tanson depuis déjà 4-5 ans, et qu'il est l'ami de Coulus, juif, qu'il est l'ami d'un certain nombre d'écrivains ou d'artistes qui sont, eux, soit juifs, soit Dreyfusards, eh bien, ils ne se séparent pas d'eux. Et ça, Tadéa Tanson l'écrit après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, lui qui a porté l'étoile jaune dans Paris sous l'occupation, il est très clair. Lautrec n'a pas pris position, mais il ne s'est pas séparé de ses amis juifs.
Alors, il y a une surprise aussi, c'est que quand même, à la fin de sa vie, dans les dernières salles de l'exposition du Grand Palais, qui se tiendra jusqu'au 27 janvier, les derniers tableaux sont très surprenants, parce que, bon, il est très affaibli par la maladie, mais on ne peut pas dire que ça ressemble à du Toulouse-Lautrec. Il peint des drôles de scènes étranges, des médées, des scènes d'opéra, et là, on est absolument éberlué, Stéphane Guégan. Pourquoi avoir mis ces derniers tableaux ? Ça veut dire quoi ?
Pour les raisons que vous venez de dire, c'est-à-dire, d'abord, essayer de combattre l'idée que ses difficultés d'alcoolique ont fléchi son talent. C'était un peu la position de mes prédécesseurs en 92. On aimait moins le début parce que c'était trop naturaliste, presque un peintre de salon qui s'ignorerait. Et puis on n'aimait pas la fin parce qu'on n'y trouvait plus l'écriture elliptique, un peu japonaise, l'humour. Je crois que Lautrec, qui combat mollement son alcoolisme et qui choisit au fond de boire, après avoir tenté de se guérir de l'alcool, eh bien, il s'ouvre un autre destin. D'abord, il ne se sait pas encore condamné. Et je crois qu'en 97, 98, 99, donc à l'approche du nouveau siècle, et peut-être que cette approche du nouveau siècle, eh bien, est pour quelque chose dans sa volonté de se transformer, l'encourage à se réinventer. Alors, ça semble un peu plus puissant, ça semble même un peu plus pâteux, ça semble même le renvoyer à Cormon, puisqu'on y voit des scènes presque historiques, même s'il évoque plutôt l'opéra. Et quand il peint, par exemple, un examen de médecine, qui évoque un peu le monde des médecins de ses cousins, on a l'impression d'un jugement dernier. Il revient aussi à quelque chose qui nous renvoie à la pratique du portrait déguisé à l'anglaise, quand son ami Viau devient un amiral du XVIIIe siècle, Joyant est lui-même aussi l'objet comme ça d'une sorte de déguisement un peu humoristique. Sa peinture semble plus solide, semble presque plus pesante. Moi, je la trouve en même temps poignante, parce que voilà quelqu'un qui décide, alors qu'il a véritablement acquis une réputation certaine dans le milieu parisien, de se réinventer.
Voilà, c'est formidable. En tout cas, c'est une exposition tout à fait passionnante, avec des œuvres qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui nous viennent de l'étranger ou de collections privées. Et puis, c'est l'occasion de lire ou de relire un livre publié par Tadéna Tanson en 1951, qui s'appelle Un Henri de Toulouse-Lautrec, qui est édité par la Réunion des musées nationaux et qui est tout à fait passionnante. Merci à vous, Stéphane Guégan.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Nous nous retrouverons la semaine prochaine aux environs de 19h20. Et bien sûr, après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Xavier Le Herpeur pour une heure en série. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter.